Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
L'intensité de France-Maroc, tout à l'heure, vous allez voir, vous allez le vivre juste avant, sur BFM Business, dans Tech & Co, la quotidienne.
Ça diffuse en direct
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour appâter le chaland, mesdames, messieurs? Bonsoir Cédric Ingrand.
Salut François Sorel.
Comment ça va Cédric?
Écoute, comme dans un rêve, je peux pas te laisser partir en vacances sans qu'on se voit quand même.
Mais c'est vrai, et ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Cédric Ingrand, qui est directeur général de Heavyweight Studio et qui est journaliste tech et que vous avez connu à l'époque de TF1 et de LCI, c'était il y a quelques années. Un grand merci d'être là, Cédric. À tes côtés, c'est Jean-Baptiste Kampf. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour.
Fondateur de Kyber. Tout va bien chez Kyber?
Très bien, parfait.
Bon, si vous ne saviez pas ce qu'est Kyber, les replays de Tech & Co, tu nous expliquais ça il y a quelques semaines. Tout va bien, ça va? Ça décolle.
Tout va bien, c'était le Rise Summit et c'était Machina ces trois derniers jours.
Oui, donc, beaucoup d'événements IA en ce moment sur Paris.
Surtout, en fait, étonnamment, Rise Summit, qui n'était pas forcément l'événement IA, réussi à avoir une dimension hyper internationale. Donc, vraiment, il y a énormément, plus de la moitié des gens que j'ai vus étaient des Américains. Donc, ça arrive comme un des événements IA de référence mondiale et je suis assez étonné,
mais tant mieux.
Cool.
Tant mieux.
Et pour nous, c'était génial.
Christophe Honnête est avec nous aussi ce soir. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Et bien sûr, Frédéric Simorel. Pourquoi tiens?
Simorel.
Oui, on mélange Anthony Morel. C'est la fin de la saison. Là, on est en roue libre ce soir. Franchement, si vous avez un magnétoscope enregistré, parce que à mon avis, ça risque de déraper un peu ce soir. Magnétoscope. On explique ce que c'est pour les plus jeunes. C'était un appareil incroyable. On mettait des cassettes dedans. On appuyait sur play et rec et on enregistrait l'image et le son.
Il y avait plusieurs normes V2000.
Faut que t'expliques ce que c'est une cassette en fait.
Oui, c'est ça.
V2000... Une cassette, c'était un truc avec une bande qui tourne à l'intérieur.
Une bande, c'est quoi?
C'est V2000, VHS et puis Betamax.
Et Betamax. Voilà. Écoutez, c'est pour vous montrer que évidemment la jeunesse est représentée sur ce plateau. C'était aussi ça Tech & Co à l'époque. Enfin, ça n'existait pas, mais c'était de la tech. Bon, plein de sujets passionnants ce soir avec Frédéric, Jean-Baptiste, Cédric et Christophe. Et on va commencer par Mistral AI qui se lance dans la robotique. Le champion français de l'intelligence artificielle a présenté hier un nouveau modèle censé permettre à des robots de se déplacer dans des environnements complexes. Et notamment, vous le savez, le business, ce sera en entreprise. Après avoir appris aux machines à parler, Mistral veut désormais leur donner un corps. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin. On l'écoute.
Oui, c'est ça. Faut imaginer un humanoïde qui se balade dans l'open space et qui vous apporte votre café à votre bureau. C'est l'une des démonstrations mises en avant par Mistral pour présenter Robostral Navigate. C'est le nom de ce modèle conçu pour servir de cerveau à ces robots, si l'on peut dire. Le rôle de cette IA, ça va être de permettre aux robots, de se déplacer de manière très fluide dans des environnements compliqués, des bureaux, des bâtiments résidentiels, des commerces, y compris s'il ne les a jamais vus auparavant. Concrètement, on va lui parler comme on parle à un collègue en langage naturel et il va comprendre la consigne, analyser l'environnement qui l'entoure avec des caméras embarquées, naviguer au milieu des humains, au milieu des obstacles et réaliser la tâche qu'on lui a demandé de manière autonome. Alors les applications sont nombreuses, on peut penser à la logistique, à l'hôtellerie, les robots de livraison également. Et pour Mistral, c'est une première incursion dans ce que certains considèrent comme la prochaine frontière de l'intelligence artificielle. C'est ce que dit notamment Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, c'est-à-dire l'IA qui va sortir de l'écran, des modèles qui ne se contente plus de gérer du texte et des images, mais qui vont interagir avec le monde physique. Mistral y voit la première étape vers un agent incarné unifié, c'est-à-dire des robots qui seraient capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Et c'est une nouvelle illustration. Peut-être que la France a une carte à jouer. On parle beaucoup de Vandercraft, dont les robots maintenant travaillent dans les usines de Renault. On peut penser aussi à Amilabs, la start-up de Yann Lequin, avec ses World Model qui, là encore, veut faire sortir l'IA du monde virtuel et la faire entrer dans le monde physique, dans le monde réel. Et bien, avec Mistral, on a une nouvelle chance. Alors, face quand même à des géants américains et chinois, je pense à Figure AI ou encore à Unitree, pour ne citer que les plus connus.
Voilà, et on peut parler aussi d'Optimus, le robot d'Elon Musk et de Tesla. Voilà, Mistral donc qui se lance dans cette nouvelle aventure, donc une IA pour les robots. Tiens, on va commencer par JB, tu suis un peu tout ça, j'imagine.
Évidemment, c'est très cool. Il y a quelques petites remarques quand même, c'est que contrairement à ce qu'on fait pas mal de fois à Mistral, là on n'a pas l'air d'être dans un modèle open weight, hein, ça a l'air d'être un modèle complètement propriétaire.
D'accord.
Attention, hein, c'est Robostral Navigate, hein, c'est pas un modèle qui gère tout le robot, hein, c'est vraiment être capable de se déplacer sans carte, hein, ce qu'on appelle le mapless, et le benchmark.
Avec une caméra RGB, je crois. Il n'y a pas de lidar. Hein,
d'après voilà. Une simple caméra.
Une simple caméra. Et il y a des benchmarks. Nous avons un benchmark qui s'appelle R2R, CE, room to room. Le résultat ne sont pas les meilleurs, mais ce n'est pas ridicule.
C'est correct,
et surtout, il semblerait que le modèle soit assez petit. Donc, c'est assez intéressant. Je vois tout de suite les gens qui sont en train de me raconter que ça y est, Mistral fait de l'IA pour les robots. Là, c'est une des tâches des robots, mais en fait quand tu regardes un robot il y a quand même beaucoup beaucoup de tâches, et en tout cas c'est là, aujourd'hui on a l'impression quand même qu'on va se retrouver avec un modèle pour naviguer, un modèle pour le bras, un modèle pour faire quelque chose, sachant que la tâche la plus difficile, hein, c'est faire la cuisine, parce que vous regardez le nombre de petites tâches que vous faites quand vous faites la cuisine, entre chauffer de l'eau, le mettre au micro-ondes, ouvrir une porte, ouvrir le frigo, aller récupérer des choses, vous allez voir, en fait si vous décomposez tout ce que vous faites, c'est très très compliqué. Et donc là on n'est quand même pas sur un modèle qui va faire tout ça, mais c'est très cool que Mistral aille sur ce sujet-là. On va voir ce qu'ils font après.
Mais c'est cool, mais c'est intelligent surtout. Parce qu'évidemment, jusque-là, ils étaient sur la concurrence frontale avec les autres modèles de langage. Concurrence assez dure. Là, ils arrivent sur un marché, on va dire, où d'abord, c'est que du B2B, clairement. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent à prendre. Ce qui est plutôt intelligent quand on est Mistral. Et puis, alors j'ai vu quand même, il y a des chouettes avancées, outre le fait que, de fait, tu n'as pas besoin d'avoir un lidar ou d'avoir du multicaméra pour que ça marche. Ça marche avec une pauvre caméra à 10 euros. Ils ont entraîné le modèle sur des contenus simulés. C'est très français. Hein, tu apprends à marcher avant d'aller dans le couloir. Tu apprends un robot qui n'a jamais vu un couloir. Et ce qui réduit en plus le coût de l'apprentissage. Non, c'est chouette. En tout cas, c'est une diversification bienvenue pour Mistral, qui en frontal face à Claude, OpenAI et les autres, forcément, pouvait peiner un peu, avait la souveraineté comme atout, mais ça ne peut pas être le seul atout.
Voilà, après moi je ne veux pas doucher cet enthousiasme, qui est plutôt positif, et c'est très bien, mais on est loin d'un robot autonome qui pourrait faire la cuisine, qui pourrait faire le ménage.
Mais c'est vrai pour tout le monde, hein, je rappelle.
Il n'y a pas une boîte qui est un peu plus en avance.
Beaucoup de démonstrations qu'on a vues au CES, c'est radiocommandé. Hein.
Exactement, exactement.
Les robots boxeurs,
mais on voit qu'il y a des startups qui commencent à apprendre, qui ont des IA, qui apprennent les gestes que fait un humain. Mais le robot, en tout cas, il y a des caméras qui comprennent ces gestes-là et qui après arrivent à les reproduire.
Mais juste, tu vois, juste la gestion de la main, c'est un budget et c'est une start-up en soi qui va valoir plusieurs milliards.
Juste la main.
Juste la main et l'appréhension.
Mais même de l'équilibre. Alors
et
là,
pas la compréhension de ce que fait la main.
Il faut comprendre. Les robots, c'est beaucoup, 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 beaucoup de tech. C'est sûr, tu peux acheter une ITRI à 8000 euros, 5000 euros, mais il fera quand même pas grand-chose.
Ouais.
Sauf si tu le contrôles par Kyber. Allez.
Oh là 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 là, le petit hack comme ça. C'est beau, magnifique.
Là-dedans, ce qu'il faut voir aussi, c'est toute la partie équilibre, parce qu'un robot, ça tient pas comme nous, naturellement, notre cerveau qui calcule.
Là, t'as vu, ils sont sur roulette, celui-là.
Sur roulette, mais même sur roulette. C'est-à-dire, s'il porte un poids, même sur roulette, il va se pencher en avant. Est-ce que le poids en bas, la base en bas va être suffisamment. C'est le principe du parasol, hein, la base en bas est suffisamment lourde pour. Justement, si on lui donne un poids lourd, là, c'est un café, ça va. Et après, c'est vrai que là, c'est ce que tu dis, Cédric, il a entraîné surtout dans des données synthétiques, enfin des données virtuelles. Faut voir ce que ça donne en environnement réel où la lumière change, il y a des humains qui se baladent au milieu, donc il va falloir tout ça. Maintenant,
des enfants.
Mais maintenant, il faut saluer. Ce qu'il faut saluer, c'est que ça y est, on se lance et on n'hésite pas.
Et tu noteras que la roue, c'est aussi ce que fait Enchanted Tools avec Mirokai.
Mais bien sûr. On peut imaginer plein de partenariats.
La bipédie est quelque chose de finalement assez compliqué à gérer et t'en as pas forcément besoin.
Mais tu sais ce que m'a dit Jean-Louis Costanza là, de Wondercraft, là, il m'a dit que pareil, les roulettes c'est assez complet. Enfin, quand je prenais l'exemple du parasol, c'est vraiment ça. Il faut vraiment un poids assez lourd en bas pour porter des parts.
Il faut avoir un centre de gravité assez bas.
Pas pour le café, hein, Wondercraft c'est porter des
pneus. Si jamais t'as fait du Segway en fait, tu l'as vite vu.
Donc
en fait,
c'est lourd un Segway.
C'est lourd un Segway. Et pour cette raison d'ailleurs, c'est parce qu'en fait, il faut pour avoir ta stabilité, il faut te mettre du poids. Mais évidemment, plus tu mets du poids, moins plus c'est coûteux de se déplacer, moins t'as de batterie. Donc il y a beaucoup en fait de d'approximations et de choix à faire qui sont pas du tout évidents, et on n'y est pas encore, mais ça va venir, hein. Et en tout cas ça accélère très très vite, ça c'est sûr.
Et c'est modèle open source, hein, donc du coup ça veut dire que c'est assez ouvert, a priori c'est ouvert pour que d'autres viennent greffer leurs applications dessus.
Christophe.
Alors, ça, Jean-Baptiste n'est pas tout à fait d'accord avec ça, visiblement. Il a une petite pique là-dessus tout à l'heure, sur le modèle OpenWeight.
Mais on le laisse un peu mariner. Fais ton explication.
Je vais prendre le risque de me lancer sur le sujet où je ne suis pas vraiment spécialiste. Donc, je vais plutôt en termes de positionnement de l'entreprise. Je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a vu Mistral arriver. Bon, avec le chat, je crois que tout le monde a un peu oublié le fait que ça pouvait effectivement se positionner directement par rapport aux interfaces conversationnelles. Donc, ils ont fait un virage, comme tu le disais, vers le B2B. Donc ça, c'est bien. Plutôt vers l'industrie, puisqu'ils se sont engagés avec des modèles de développement qui consistent à aider les clients à mettre en œuvre des modèles d'IA et des solutions IA un peu entre guillemets à la Palantir chez les clients avec un nombre limité de grands comptes. Donc ça a du sens pour eux de montrer qu'ils continuent à être dans une démarche d'innovation. Tout le monde perçoit que la prochaine frontière est la robotique, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut percevoir de l'extérieur, ça je veux bien croire. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Le fait de se positionner également avec une technologie sans LiDAR, mais avec une caméra toute simple qui a pris un modèle simulé, mais qui apparemment peut se réentraîner dans un contexte qui fait qu'on pourra peut-être pas l'acheter comme ça, et ça marchera, il y aura un peu d'accompagnement
d'accompagnement. Il manque juste un truc dessus, c'est le bouton, enfin là c'est des chinois, enfin c'est visiblement c'est un robot chinois, c'est le bouton d'arrêt, parce que oui, mais c'est obligatoire en France.
L'autre chose qui me paraît intéressante, c'est qu'ils ont pas une stratégie qui consiste à développer eux-mêmes des robots, mais à plutôt se positionner pour développer une plateforme logicielle.
Non, là je parlais du robot mécanique, ouais. Et ils sont pas entre guillemets impliqués là-dedans, c'est aux Chinois de mon côté.
Bon, après, moi, ce que je vois, c'est que Nvidia, d'autres acteurs sont très actifs aussi sur cette vision d'arriver à développer une couche logicielle sur laquelle la robotique va pouvoir se développer. Donc, ils s'adressent quand même à un marché ultra compétitif, mais peut-être ils peuvent autour de ça embarquer sur certaines applications verticales, peut-être plus simples, des acteurs européens, tu vois, qui pourraient développer du hardware autour.
Hein, ils circulent dans le. Il va cartographier un peu les bureaux, tu vois, selon chez qui il est utilisé, si les données peuvent rester en France.
Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que Mistral, ils ont quand même pas mal travaillé sur leur OCR, hein, qui est un très très bon OCR. Ouais. Ils ont pas mal travaillé sur Voxtral, hein, qui était leur partie voix. Donc en fait, tu vois qu'ils se diversifient pas mal sur les types de modèles. Et en fait, il y a plein de besoins, en fait, parce qu'on va avoir pas forcément un modèle qui fait tout, mais plein de modèles spécialisés pour des tâches spécialisées, de la voix, de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de vidéo, etc.
Alors évidemment, ça fait rêver, hein, ces robots qui pourraient être demain dans les usines, qui sont déjà dans les usines, mais on voit que là, on essaie de franchir un nouveau cap.
Ouais, mais il faut vraiment que, rappeler ce que dit Jean, on est dans des monotâches.
Mais bien sûr. C'est quand on voit on va dire encore la progression possible de tous ces trucs-là, on se dit quand même que l'être humain est une machine incroyable. C'est vrai que,
alors surtout, tu vas faire le calcul de quelle est ta consommation d'énergie en tant qu'humain,
mais bien sûr,
et de ton cerveau, et la consommation d'énergie de ton cerveau, et là tu vas faire ah ouais quand même.
Le mec qui a inventé ça, il est pas mal quand même. Hein.
C'est quand même pas mal fait.
C'est pas mal foutu. Hein,
parce que quand tu regardes combien ça consomme une H100, c'est 1 kilowatt.
Non mais et puis j'imagine que l'IA,
si ton cerveau consomme 1 kilowatt, on a un petit souci.
L'IA doit calculer aussi toute cette consommation d'énergie, puis piloter tous ces petits robots aussi. Enfin là, ça doit être une trentaine de petits mécanismes pour bouger un peu tout ça, donc je pense que voilà, l'IA va piloter tout ça,
voilà, donc mais c'est plutôt positif. Tu fais un peu le ronchon, JB.
Pas du tout. Regarde une main. Ouais. Regarde combien tu as d'articulations. Regarde combien tu vas avoir de cerveau moteur. Ouais. C'est pas 20, c'est 100 que tu dois avoir sur un robot.
Il
a une pince, ok.
Mais sur les Rendercraft, ils en ont une quarantaine, je crois, 40-45. Et puis là, je voyais, comme il est monté sur roue, il n'a pas tout le système
d'accord,
de jambes.
D'accord, mais en fait, tu en vides beaucoup plus. Et en fait, c'est un vrai problème parce que ça coûte très cher. Aujourd'hui, la partie moteur, en fait, c'est quasiment un tiers, voire la moitié du prix d'un robot.
C'est,
en fait.
C'est pas Optimus qui plutôt en avance là-dessus, parce que moi, je vois des vidéos de robots Optimus qui arrivent à prendre délicatement des œufs, des vers, etc., etc.
À quel prix? Moi, je te fais un super moteur. Il coûtera 1 000 euros le moteur.
Non, mais à quel prix? Après, bon, on sait que ça coûte cher aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça coûtera 5 fois moins cher, etc.
Tu vois, par exemple, le prix des cerveaux moteurs.
C'est-à-dire que techniquement, on arrive à le faire, ça coûte très cher.
Bah, tu noteras, le prix des cerveaux moteurs, c'est quelque chose qui descend relativement peu. Et c'est un vrai sujet.
Un bras robotique, c'est, enfin, hors doigt articulé, c'est, t'as six moteurs déjà. Juste le truc que je pince, je prends. Donc après, tu rajoutes pour la main, tu rajoutes la consommation électrique, tu rajoutes. Mm-hmm.
Et ben voilà. Écoutez, donc
on est très efficace en énergie.
Ouais,
nous les humains.
C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est,
par rapport à
je trouve
ça.
Que c'est intéressant de se dire que finalement, quand on compare un humain à ce que fait aujourd'hui le nec plus ultra de la technologie, on est une machine qui est inégalable pour l'instant. C'est quand même assez vertigineux.
À 20h, on doit rentrer chez soi, on doit se nourrir, on doit aller se coucher. Lui, il peut continuer.
Ah oui. Bon.
Ouais, d'accord.
Ça vient des cafés aux développeurs qui travaillent toute la nuit.
Ouais, c'est ça. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, ouais. Visiblement. On va parler maintenant de Gradium. Est-ce que vous connaissez cette pépite que j'avais reçue dans Tech & Co il y a quelques mois de cela? Pépite française, très intéressante, d'IA vocale. Par exemple, ils font du text to speech, ils font de la traduction aussi, Gradium. Bref, une belle boîte, très intéressante. Et là, pourquoi on en parle ce soir? Parce que il vient d'atteindre les 100 millions de dollars de financement et Nvidia devient l'un des principaux investisseurs de Gradium. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Gradium s'étend aux États-Unis. Donc voilà, écoutez, plutôt bonne nouvelle tout ça. Hein, Mistral et la robotique, Gradium qui monte d'un cran, visiblement. Qui commence là-dessus?
C'est intéressant, on est encore dans l'économie circulaire. C'est Nvidia met de l'argent dans Gradium qui va probablement utiliser les puces de Nvidia, donc au moins ils sauront quoi faire avec l'argent vu que c'est devenu quand même très très cher.
Et encore, c'est pas comme quel deal.
Gradium, c'est une excroissance de Qtail.
C'est ça qu'il faut dire.
Je sais, Jean-Baptiste me pousse presque du coup dans un métier.
Allez, mais vas-y, tu vas le dire.
C'est hyper original. Il y a aucun autre endroit où on a ce système de labo de recherche qui est un labo de recherche privé de fait qui spin-off.
Attends, je vais faire le journaliste. On repart du début. Qtail, c'est ce truc co-monté par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt,
qui est le patron de Google,
qui ont mis 300 millions pour créer un laboratoire.
Justement, Rodolphe Saadé qui est le propriétaire de BFM Business.
Oui, ça c'est le NDLR en bas de la.
Il faut
le rappeler. Qui ont créé ce laboratoire d'IA qui est destiné justement à faire des start-out en fait, à créer des produits qui prendront leur envol. Ils avaient mis 300 millions. Là, Gradient se enlève 100. Ils en avaient déjà levé 70 à la fin 2025. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne connaît pas les noms des autres investisseurs. Bon, soit, on verra bien. Mais, et puis surtout, ils arrivent sur un secteur qui est quand même un peu en surchauffe. C'est-à-dire que les startups européennes de la voix et de l'IA ont levé plus de 500 millions sur les 6 derniers mois. Donc, il se passe pas mal de choses. On voyait, comment ça s'appelle, c'est Gladia.
Gladia,
racheté par OVH Cloud, enfin, en voie d'être racheté par OVH Cloud. Non. Mais on sait que là aussi, c'est un marché, presque infini.
Ce qui est intéressant, c'est que Qtail était un des premiers à faire une IA vocale, qui est donc un LLM vocal qui réfléchit en voix. C'est-à-dire que habituellement, ce que tu fais, c'est que donc tu parles, ça fait du speech to text. Ensuite, ça te utilise le texte pour faire.
Donc ça fait toutes ces conversions, en fait, c'est ça.
Et justement, Mochi, qui était donc le premier modèle de Qtail, ne fonctionne pas comme ça. En fait, on ne repasse jamais en texte. Donc ça fait pas speech to text, texte ou LLM, LLM to voix.
D'où la faible latence.
Et donc, ils avaient justement Mochi, qui était une des latences les plus faibles, ou justement pour faire quelque chose qui te répond en 100 millisecondes au téléphone. Et c'est une partie des gens qui ont fait Mochi, en fait, qui ont spin-off pour faire Gradium. Sachant que la société peut-être la plus connue en voix au monde, c'est Eleven Labs, qui est surtout très très forte en text-to-speech, donc en génération de voix.
Oui, et arrive à numériser les voix humaines.
À cloner, ouais.
Voilà, à les cloner, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors, Gradium, avec tout cet argent, va s'installer dans la baie de San Francisco. Ils vont accélérer sur la recherche en IA, développer sans doute de nouveaux produits, et puis donc cette expansion internationale avec l'arrivée dans la Silicon Valley.
C'est très bien.
C'est très bien.
Très bien. Et surtout, tu vois quand même que la voix, c'est la nouvelle frontière. On va en parler juste après, parce que je pense qu'après, on parle de ChatGPT. Mais maintenant, il y a ChatGPT Live qui est activé dans pas mal d'applications ChatGPT. Et donc, maintenant, tu touches plus à ton app et tu fais que parler. Et c'est une vraie conversation qui arrive. La voix, c'est important.
Ouais. Christophe.
C'est marrant parce que tu vois, je me souviens... il y a 25 ans, j'étais chez Microsoft et il y a certaines personnes qui disaient « The voice is the new mouse ». Et on avait ce thème-là. Et en fait, bon.
Bill Gates l'avait promis pour Windows 98.
Oui, oui, oui. Mais... Tout arrive, si tu veux.
Non, mais pour les plus jeunes d'entre
nous. C'est pas la première promesse qui n'a pas été réalisée.
Avec le timing.
C'était.
Ouais, mais là, tu gratouilles un peu Christophe. Windows 98, tu lui rappelles de bons vieux souvenirs, si tu veux. Tu vois.
Oui, bon, 90, oui, enfin bon. Windows 95, c'était quand même mieux. Mais oui, en fait, il y avait ce.
Le mieux, c'était Windows Vista, on est d'accord.
Oh là là.
Là, j'étais parti. C'est pour ça d'ailleurs.
Oui,
c'est
pour
ça que ça a planché.
C'était Christophe qui l'a présenté en haut de la
pierre. On s'égare un petit peu.
L'arche de la défense.
Et en fait, bon, il y avait ce concept-là et je réalisais là, il y a quelques jours, moi-même dans mon utilisation de Perplexity, de Claude, que en fait de plus en plus souvent je bascule en voix parce que ça va beaucoup plus vite, et en fait je l'ai fait assez récemment, donc je pense que l'interface voix elle va se développer largement, même si c'est probablement pas la première idée. L'idée là c'est plus finalement comment dans des contextes de traduction automatique ou d'agents interactifs je vais pouvoir répliquer une conversation qui ressemble encore plus à de l'humain, notamment avec le fait de ne pas avoir de latence, que ce que tu expliquais, et le fait que visiblement, ils sont capables, lorsque je suis élu, de comprendre qu'il y a un silence, mais ce silence, c'est est-ce que j'ai fini ma phrase ou est-ce que je réfléchis, et de pouvoir...
D'anticiper, de prédire un peu.
Donc, il y a une sorte de moi, ce qui... le process que Jean-Baptiste décrivait, il y a une sorte de compression de tout ça.
Ce que je trouvais intéressant avec Moshi, parce qu'on était à la démo, et je pense que tu y étais aussi, JB, c'était impressionnant. En fait, l'IA répondait avant... que la personne termine sa question, parce que ça allait tellement vite, il y a comprenait le sens de la question avant qu'il termine sa question, ce qui fait que il se chevauchait tout le temps. Finalement, c'était même un peu too much la démo.
Mais la démo, elle était importante pour te montrer.
Ça prouvait la rapidité du système.
Noté, par exemple, Moshi a été entraîné donc avec des techniques un peu différentes de ce que t'entraînes habituellement, mais avec pas assez de données. Donc si tu dis jouer avec Moshi, très vite, c'était de l'hallucination totale. Il racontait n'importe quoi. Ouais. Mais c'était pas grave. Et c'était pas le fait d'un produit. Non, c'est une démo technologique, une façon d'entraîner des modèles voix.
Après, ce qu'il faut voir sur la voix, est-ce que ça va être la révolution on attend toujours Siri et tout ça, on voit que tout est, comme tu dis, the voice is the new mouth.
Tous les services clients, tous les SAV, on nous dit que ça va révolutionner tout ça.
Donc,
la dernière fois, il y a une IA qui m'a appelé, excusez-moi, mais j'étais là, je pouffais de rire pendant 10 minutes, quoi.
Il y en a plein qui marchent très bien, franchement, c'est là où il faut se poser la question, un revendeur d'énergie, je vais pas citer son nom, il change
est-ce que c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est juste une nouvelle interface, parce que derrière aussi la voix, tu parlais, on peut discuter avec la voix, la voix, et c'est les chercheurs qui le disent, à un moment t'as une certaine fatigue conversationnelle, c'est-à-dire il y a un moment on a un peu marre de parler, enfin tu vois, on peut pas alors qu'au clavier bon il peut y avoir la fatigue du clavier aussi, mais voilà, faut faire attention à ça, la fiabilité comme tu dis, les silences, les accents, les mots qui se touchent. Et puis, dernière chose, la sécurité, parce que les clonages vocaux, je n'ai pas de dessin pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est ultra perfectionné et que là, on a quand même des niveaux assez forts. Donc, voilà, il y a quand même quelques étapes pour que ça soit sécurisé.
Non, moi, je pense qu'il faut.
Mais Gradium, voilà,
c'est positif. On est plutôt bon là-dedans. Moi, j'ai une question quand même. Je trouve que c'est super positif. Et puis, le modèle d'un laboratoire privé qui essaime une entreprise, en plus, avec des cofondateurs, de ce que je comprends, qui sont des anciens de Google, DeepMind ou de Meta. Donc, ça veut dire qu'on est quand même capable de recréer de l'IP locale et de donner envie aussi de créer des entreprises en France. Donc, ça, c'est positif. Mais la question que je me pose, c'est quoi le futur d'une boîte comme ça ? C'est quoi en quoi on fait un produit ? Parce que si tu fais juste... Tu vois, si tu as juste une super démonstrateur qui fait ça, tu vas avoir un truc un peu en avance... Mais un jour ou l'autre, quelqu'un va rattraper.
C'est aller l'intégrer dans des plateformes.
Et donc, tu te dis, l'exit, c'est d'être acheté par un Siri qu'on a l'habitude de...
Un OpenAI dans leurs lunettes, leurs futures lunettes.
À mon avis, la sortie industrielle, donc, elle est proche. Parce que sinon, t'as un risque, d'avoir quelqu'un qui fait du good enough. Mais le good enough, il sera enough.
Exactement.
Et là, c'est quand même... un truc très horizontal.
Mais d'où la bonne idée d'essayer de s'émanciper et d'aller dans la Silicon Valley.
De se mettre aux US, absolument.
Bien sûr.
Absolument.
Évidemment.
Depuis Bloomberg, il y a quand même Nvidia qui a mis un peu d'argent là-dedans, donc ils doivent sécuriser un petit peu, ils vont réussir à
l'orienter. Alors, ce qui n'est pas très clair dans l'annonce, c'est savoir si Nvidia c'est le lead ou c'est le follow.
Oui.
Et ça m'a un peu gêné dans cette. Alors, par contre, je n'ai pas assez cherché, ça c'est un peu ma faute.
Et puis, il n'y a pas de valorisation non plus.
Non, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'infos.
C'est moins grave, mais de fait, leur père, c'est Eleven Labs, 22 milliards. Pas mal.
Ouais, pas mal du tout.
Mais beau produit.
Est-ce que vous voulez qu'on parle de ChatGPT, de la publicité qui va arriver, les amis? Voilà une bonne nouvelle, juste avant de partir en vacances. Préparez-vous, car OpenAI cherche des vendeurs de pubs. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, allez, ça va arriver chez nous. Et typiquement, la branche française d'OpenAI cherche des commerciaux qui vont vendre de la publicité. Et à partir du moment où vous cherchez des commerciaux qui veulent vendre de la pub, ce qui se trame, c'est pas terrible, terrible. Et donc, à terme, peut-être dans quelques mois, on aura de la publicité qui apparaîtra sur les versions gratuites et Go de ChatGPT, qui sont, on va dire, les plus abordables. Enfin, évidemment, la gratuite est très abordable. Celle qui est la Go, elle est à quelques dollars, je crois, c'est 5 euros ou 5 dollars, quelque chose comme ça. Et donc, la pub peut apparaître de deux manières. Bannière, qui n'a rien à voir avec votre discussion. Et puis, je crois qu'il y a aussi une autre fonctionnalité qui est de parler en fait à une publicité qui s'affiche pour avoir plus d'informations. Je crois que c'est ça les
deux formules.
Voilà, de toute façon, Sam Altman n'a pas le choix. Il faut qu'il arrive à diversifier ses revenus, Christophe.
Et à monétiser un peu ces 95% d'utilisateurs qui ne payent pas un rond. Enfin, mais c'est un peu ça.
OpenAI, dans la galaxie des acteurs de l'IA, pour moi, c'est un des plus fragiles parce qu'il n'a pas les poches profondes, il n'est pas Google qui a des business qui rapportent des dizaines de milliards, ou Microsoft, ou Anthropic avec Amazon. Donc, quelque part, il faut qu'il arrive à trouver dans son activité un business model qui peut fonctionner. Donc, il y a effectivement la conversion, un upselling sur la base B2C très large. Mm-hmm. Et puis, il y a le développement de l'activité B2B qu'ils essayent de faire avec en essayant de développer, de recruter massivement des équivalents forward deployed engineers à la mode Palantir pour essayer de développer des applications IA chez les clients. Mais donc, ils ont absolument besoin de monétiser cette audience qui est quand même importante, même s'ils se font rattraper quand même pas mal
par
900 millions de personnes. Et donc, il est naturel qu'ils le fassent. Maintenant, la question, c'est en quoi l'expérience va-t-elle être claire sur ce qui est la publicité et ce qui ne l'est pas? Visiblement, dans les premiers tests qu'ils ont fait, parce qu'ils en ont fait sur 10% de leur base installée aux États-Unis, de ce que je comprends, ils ont des taux de conversion sur la publicité qui sont 3 à 4 fois ce que fait Google. Donc, ils arrivent à du 5 à 7% de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es déjà engagé dans une discussion assez approfondie. Et donc, tu es chaud comme prospect, si je puis dire.
Ouais,
et donc,
bien sûr.
Tu bascules plus rapidement. Et ça atteint 7% dans le tourisme. Je ne sais pas si vous avez préparé un voyage avec ChatGPT ou avec Mais en fait, naturellement, il propose des choses. Et on se demande toujours pourquoi il me propose tel hôtel.
Et pas ça.
Et pas ça. Et donc,
est-ce qu'il n'y a pas eu un petit billet à Hilton pour te proposer?
Il faudra qu'il soit évidemment très.
Alors, avoir un comportement. Juste une chose. OpenAI stipule et précise bien que ça n'influera pas sur les réponses qui seront affichées. Voilà, ils le disent, ils le répètent.
Pour le moment, on croirait entendre Don't Be Evil.
Non, mais bien sûr. Là, je me fais le porte-voix de Sam Altman, mais sincèrement, est-ce que j'y crois? Pas énormément.
Mais c'est pour ça qu'il travaille avec Criteo, d'après ce que j'ai vu. Donc, quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, le but, ce serait Criteo, ce serait le partenaire. Alors, comme par hasard, Criteo, en ce moment, est en train de chercher à de nouvelles débouchés, voire se vendre à des fonds. Donc, parce que Microsoft a bien son agence.
Ils ont raison, il y a une nouvelle disruption.
OpenAI pour avoir sa régie pub aussi. Ouais.
Mais la pub JB sur ChatGPT, c'est...
Moi, je paye pour ne pas avoir de la pub. La pub, c'est un cancer du cerveau, si tu veux que je te dise. Je ne peux pas me poser mon avis sur la pub.
On ne mangera pas ce soir.
C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, tu l'as dit, il faut qu'ils monétisent cette énorme base installée de gens qui ne payent rien. Et puis surtout, ils sont quand même dans une situation d'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont préannoncé le fait qu'ils allaient faire une IPO, qu'ils allaient s'introduire en bourse. Le problème, c'est qu'ils ont des vrais frais d'infrastructure et puis d'énormes annonces d'investissement qu'il faut financer. Ce qui leur pend au nez, c'est ce qu'on appelle un down round, c'est que le prochain round de financement se fasse à une valorisation inférieure au précédent. parce qu'on a vu que la valorisation, au moins virtuelle pour l'instant, d'Anthropic a dépassé celle d'OpenAI. Et donc, ils sont dans une situation terriblement inconfortable. On le dit ici, hein. Ils font des annonces tout le temps, avec des choses qui se réalisent ou pas, parce qu'ils ont besoin quand même d'envoyer du charbon dans la fournaise, tu vois ce que je veux dire, pour continuer à justifier des valorisations qui ne tiennent pas debout. Mais on en reparlera tout à l'heure.
Mais est-ce que ça peut être un gros business, à votre avis, cette pub? Parce que tu disais que le taux de conversion est important.
Oui, regarde les business de Google. Mm-hmm. Google, 80% de business, c'est de la pub. Et Google, ça fait beaucoup d'argent, avec des grosses marges.
200 milliards par an, non, mais c'est énorme.
La question, c'est, est-ce que l'utilisateur qui, aujourd'hui... Et vierge de publicité sur ChatGPT ne va pas aller voir sur Gemini,
Justement, ils vont tous le faire.
Ils vont tous le faire.
Et d'accord. Je vais t'annoncer un truc, c'est que Google risque de le faire mieux que les autres.
Mais Anthropic s'était moqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ChatGPT. Ouais.
Avec cette pub,
je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était pendant le Super Bowl. Vous vous souvenez ou pas? C'était incroyable. Il y avait un humain qui posait une question à un autre humain qui était en fait ChatGPT, et ChatGPT au bout d'un moment lui poussait de la pub un peu comme à la télé, quoi, et il s'arrêtait de répondre correctement et racontait en fait un écran pub, et c'était vachement bien fait. Et donc Anthropic se moquait un peu d'OpenAI
Anthropic a pas le même ratio d'utilisateurs qui payent pas. Anthropic, l'essentiel de leurs utilisateurs payent, enfin en tout cas ils ont un modèle économique beaucoup plus équilibré.
Et puis n'oublie pas que nous, alors, voilà, un peu alertés, on est un peu anti.
Oui, mais il y a
quand même, un marché captif, alors Occident, mais Inde, Chine, Chine après avec ChatGPT sera un peu plus complexe, parce qu'il y a déjà pas mal de monde, mais tu as quand même un marché très captif ailleurs dans le monde qui mettent de la pub, tout ça.
Bon. Donc,
Je pense que le filet est suffisamment large pour que ça puisse rapporter des sous. Moi, je regrette toujours. Bon, on avait Fujisimo qui était arrivé à la tête, pour gérer tous ces business, qui malheureusement, pour des raisons de santé, a dû se mettre un peu en recul. Puis je pense que ça, là, on a toutes les petites choses qu'elle avait amorcées et voir qui. Je sais pas qui est à la tête de tout ça maintenant, mais. Aller chercher des
voilà, en tout cas, une chose à retenir, la publicité, ça va pas tarder à arriver en France, dans ChatGPT, en tout cas pour la version gratuite.